On a perdu coup sur coup Josh Hader puis Devin Williams. Ça paraît même pas.
Non, exact. Mais tu sais, Alain, regarde, Woodruff, on savait qu'elle allait revenir, mais il allait revenir de quelle manière? Tu sais, alors, tu parles de transactions, là, qui. Tu sais, d'aller chercher un bras. C'est comme si on est allé chercher un bras de qualité.
Au jeu! Deuxième prise! Compte complet!
Le balado Compte complet est présenté par Plan de match à Boucherville et au Saguenay. Votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Et par les capitales de Québec. C'est plus qu'accessible, c'est plus que du baseball. Voici vos animateurs, Alain Huzeau et Marc Griffin.
Bienvenue à Compte complet, Alain Huzeau et Marc Griffin qui vous parlent de ce qui se passe dans le monde du baseball 6 semaines avant la fin de la saison régulière. Ça va vite, Marc. On va parler des Blue Jays de Toronto au départ dans le premier bloc, tout simplement parce qu'il y a des décisions qui ont été prises. Tu l'as dit, je pense, à plusieurs reprises, t'aimes beaucoup Joel Oporfido, victime un peu du retour de George Springer. Moi, j'aurais pensé que Ty France, c'est lui qui aurait écopé. Bien franchement, je pensais qu'il aurait été seulement de passage avec les Blue Jays de Toronto. Lorsqu'on l'a acquis, l'impression c'était que c'était le gars à prendre si on voulait Varland. Ça arrive souvent. Débarrasse-nous du contrat, puis on va te donner Varland pour moins cher que ce qu'il vaut. Là, Friends, encore avec l'équipe. Loperfido, Marc, regarde, on va se dire, ne méritait pas d'être rétrogradé. Tu penses quoi de cette décision-là? Puis qu'est-ce qui se passe dans la tête de Loperfido? T'as beau lui dire, regarde, t'as fait ce qu'il faut et tout ça. Le gars, t'en beau joie le vert, là.
Ouais, c'est une démotion injuste. Le gars fait exactement ce qu'on lui demande lorsqu'il est utilisé, mais c'est un beau problème chez les Jays. Puis là, Alain, c'est drôle parce que moi, j'avais écrit une chronique sur RDS.ca, mais je savais que ça s'en venait. Il y avait une décision à prendre. Le Varsho est de retour, évidemment, puis là, Springer allait revenir. Fait qu'il y avait un gars de trop. Là, j'ai commencé à regarder, ben, t'as des droitiers, tu sais, David Schneider qui est droitier. T'as Straw qui est frappeur droitier. Ty France qui est frappeur droitier. Je me mettais à dire, ben, écoute, peut-être que c'est Straw qui va écoper. Mais Straw joue très bien en défense lorsqu'on lui demande. Puis là, ben, la journée qu'on envoie l'Oporfido de retour dans les ligues mineures, ben, il frappe deux coups de Straw, frappe deux coups de circuit. Fait que ça jouait effectivement Ty France et Miles Straw, selon moi, et non l'Oporfido. Ça n'aurait pas été une décision facile parce que, évidemment, Ty France, depuis qu'il était avec les Blue Jays, il frappe. On peut pas dire qu'il frappe pas, là. Le gars, quand même, bon, a obtenu un rendement qui est intéressant. Est-ce qu'il s'est bien intégré à l'équipe aussi? Bon, un paquet de facteurs à considérer, mais. Écoute, c'est sûr qu'on a dû utiliser toutes sortes de mots pour expliquer ça à Loporfido. On va dire, écoute, il va être de retour très bientôt. On sait que au 1er septembre, on a deux joueurs de plus dans la formation. Est-ce que ce sera Loporfido? On verra bien. Mais il n'y a pas de décision facile dans ce genre de situation-là. Mais c'est sûr que si Ty France ne frappe pas beaucoup, je pense que c'est lui qui écope. Le fait qu'il frappe a peut-être changé la donne un peu dans ce dossier-là.
Oui, et je suis bien d'accord là-dessus. Marc, victime un peu, évidemment, du trop grand nombre de joueurs de qualité chez les Blue Jays de Toronto.
Mais ceci étant dit, Alain, l'avenir passe par Loporfido. Je veux dire, ben oui. Moi, je veux dire, ce gars-là, il va être un Blue Jay, selon moi, pour un petit bout de temps. Je trouve il y a des allures, puis là, attends, lancez-moi pas les tomates, là, mais il y a des allures de Kyle Tucker, je trouve, dans sa façon de se présenter au bâton. Je ne vous dis pas qu'il va devenir aussi bon Kyle Tucker, mais il y a du potentiel derrière ce gars-là, assurément.
Oui. Ce n'est pas un gars qui va frapper 30 circuits par année, là, l'Oporfido. Ce n'est pas ce profil-là, Marc.
Peut-être pas, Alain, mais je pense que c'est un gars qui peut aller frapper son nombre de coups de circuit éventuellement. Tu sais, le temps là, d'avoir une couple de saisons derrière la cravate pour essayer de voir ce qu'il est capable de faire. Mais je trouve qu'il y a un potentiel. C'est un très bon athlète. Je sais que les Astros ont détesté cette transaction-là en raison de l'Oporfido. Ouais. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là, puis il va falloir le développer comme il le faut.
Bon, regarde, en ce qui concerne la dernière semaine, Marc, regarde, on a gagné notre série contre les Rangers du Texas en fin de semaine. On continue notre petit train. Évidemment, les Yankees ont gagné leurs 3 matchs contre une équipe sans vie, les Cards de Saint-Louis. Contre les Rays, ça va être différent, Marc. Je sais que les Rays ne jouent pas si bien, mais les Rays ne sont pas intimidés par les Yankees. Je m'excuse, là, quiconque a vu jouer les Rays ces dernières années, là, c'est une équipe que les Yankees n'aiment pas affronter. Puis c'est eux autres qui vont être sur le chemin des Yankees en début de semaine. Donc ça va être intéressant de voir ce qui va se passer de ce côté-là. Je veux demeurer avec les Blue Jays, Marc, et là on va parler d'Alejandro Kirk. Je te dis pas que c'est le mal-aimé des Blue Jays de Toronto. Tu as toujours aimé les joueurs plus athlétiques, Marc. Écoute, je vais révéler un petit secret, là. Ça te frustre un peu quand il y a un gars au premier puis qu'il y a un roulant parce que tu n'as même pas besoin de regarder. Tu le sais que ça va être un double jeu. avec Alejandro Kirk. Toujours est-il, Marc, il est devenu un incontournable chez les Blue Jays de Toronto. C'est pas compliqué, là. C'est devenu un des meilleurs receveurs dans le baseball majeur présentement. Il est bon en défense. Il semble bien diriger les lanceurs. Bon, regarde, tu me dis, il laisse passer des tirs. Regarde, c'est la technique qu'utilisent tous les receveurs aujourd'hui. Il va y en avoir des balles passées. Puis c'est dommage, mais il va falloir vivre avec. On est dans cette ère-là avec Alejandro Kirk. Il a pas le physique le plus athlétique non plus. Mais Marc, ce qu'il fait, il le fait très, très bien avec une approche au bâton qui est moderne. C'est exactement ce qu'on demande aux frappeurs modernes. Marc, c'est un gars qui est sélectif puis qui frappe la balle d'aplomb.
Magnifique histoire. Celle de Kirk. Moi, je sais que lorsqu'il est arrivé, on considérait comme un bon frappeur. Je ne voyais pas Kirk devenir un joueur aussi dominant. Je parle de domination parce que c'est un excellent receveur maintenant. Écoute, moi, il m'a surpris à tout point de vue, puis je trouve qu'aujourd'hui, là, il faut lui lancer les fleurs parce que Alain, il cadre très, très bien les tirs. Lorsqu'on voit un match des Blue Jays, tu compares toujours la façon que le receveur attrape les balles, cadre les tirs, et Kirk semble toujours avoir l'avantage à ce niveau-là. Je connais pas la synergie qu'il crée avec les lanceurs, mais de toute évidence, elle semble bonne. Et ce qu'il fait au bâton, écoute, lorsqu'il est sur une bonne séquence, ça paraît. Ça paraît vraiment dans le rôle offensif des Blue Jays. Alors, il s'est développé comme un vrai receveur numéro un. C'est tout en son honneur. Moi, je suis surpris, mais agréablement surpris de de ce comportement sur le terrain de Kirk. Puis je trouve qu'on l'utilise bien. On lui donne des journées de repos. Tu sais, souvent, là, on a tendance, des fois, les jeunes receveurs de... Hey, vas-y, là, t'es jeune, t'es capable d'en prendre, là, mais écoute, on faisait le match de dimanche, là, Alain, là, le match qui était à Williamsport, là, puis les pauvres Alvarez des Mets, t'as l'impression là, que physiquement, ouais. Là, c'est pas facile d'être receveur. Il faut donner du repos à ces gars-là. Je trouve qu'on le fait bien là, présentement chez les Blue Jays de Toronto pour maximiser le rendement de Kirk lorsqu'il est sur le terrain. Vraiment, Alain, moi, je trouve que c'est une belle histoire parce que t'sais, des fois, on voit des gars arriver et on dit « Ah, lui, c'est sûr qu'il s'en va, qu'il va connaître du succès. » Puis j'avais mes doutes, moi, sur Kirk. Et vraiment, chapeau, je trouve que c'est extraordinaire. Puis c'est à moi de mieux évaluer peut-être éventuellement le potentiel d'un gars de même. Mais je trouve que c'est une des belles histoires du côté des Blue Jays de Toronto cette année. Puis juste en passant, en terminant sur les Jays rapidement, on en parle moins, là. Mais c'est toujours une bonne chose, mais Vlad Guerrero joue du très, très, très bon baseball actuellement.
Marc, je regardais un petit peu les... tu sais que c'est la statistique, je regarde pratiquement le plus, le win probability added. Là. Il y a eu des gros, gros coups sûrs, Vlad Guerrero. C'est pas juste qu'il est en train de produire, Marc. C'est qu'il est en train de produire dans des moments importants. Et c'est ce que tu demandes de tes gros frappeurs. Puis non seulement ça, Marc, mais juste avant le balado, je regardais dans toute la Ligue américaine cette statistique-là que je trouve très importante. Il est troisième dans toute la Ligue. Troisième pour avoir permis à son équipe de gagner. Les deux premiers, je pense que c'est des noms que tu ne seras pas surpris d'entendre, Aaron Judge et Cal Raleigh.
Ben, écoute, Vlad, il est dans cette catégorie-là, effectivement, Alain. Et, tu sais, bon an, mal an, il est rendu à 21 coups de circuit. Ouais. Mais t'as raison, des présences de qualité frappent. Écoute, il a frappé... il y a des matchs, Alain, qu'il y a eu un... Bon, Vlad a eu un coup sûr, mais il a frappé trois balles à 110 000 ouais. à l'heure qui est sorti de ton bâton. Donc, c'est sûr que les succès des Blue Jays passent par tout le monde. Hein. C'est vraiment un succès d'équipe, ouais. là, présentement, chez les Jays. Mais Vlad est quand même... l'espèce de pierre angulaire, cette espèce de pièce maîtresse au milieu de la formation qui fait une grande différence.
Marc, je veux juste te parler de Berríos. C'est peut-être un peu inquiétant son rendement des dernières semaines. Mieux vaut que ça arrive au mois d'août. Si les séries commencent demain matin, t'es partant. Est-ce que tu y vas avec Scherzer et Lauer? C'est les deux meilleurs présentement.
Écoute, moi, j'irai pas avec Berríos. Si je vais répondre ça de même, là. J'aime pas ce que je vois de Berríos actuellement. Trop vulnérable pour la grosse manche. Gossman, tantôt très, très bon, tantôt un peu plus ordinaire, donc un peu d'inconstance, mais ça reste que Gossman, j'aurais plus confiance en lui que Berríos. Écoute, Alain, l'arrivée de Bieber va faire du bien. Et moi, je pense qu'on va tomber une rotation à 6, selon moi. Et là, ben, ça va peut-être aider là, un gars comme Berríos. Et les 6 dernières semaines ou les 5, tout dépendamment lorsque Bieber va revenir ou va venir jouer pour la première fois avec les Blue Jays, on a quand même 5 semaines et demie, 6 semaines pour préparer évidemment la rotation en série. Parce que, allez, on se le cachera pas, les Blue Jays vont faire les séries. La question est de savoir est-ce qu'on va terminer au premier rang de la division ou non. Alors, il faut préparer ça. Il faut déjà penser à ça, Alain, parce que si tu veux faire des changements dans une rotation, c'est maintenant que tu le fais. Ce n'est pas une semaine des séries. Là.
Les 10 prochains jours, Marc, on affronte des équipes plus vulnérables. C'est pas compliqué. Là. Pittsburgh, Miami, Minnesota. On va peut-être oublier le premier match. C'est Paul Skene qui lance. Mais les Pirates ne feront pas beaucoup, donc on a peut-être une chance de ce côté-là. Mais c'est 3 équipes très prenables là, qu'on va affronter. Peut-être que Miami a un piège, Marc, parce qu'il y a des gars qui vont bien, même si on vient de perdre Stowers, là, pour je ne serai pas de la série contre les Blue Jays de Toronto. Mais c'est quand même les 10 prochains jours des séries importantes, parce qu'après ça, Marc, ça va être compliqué, les 3 séries suivantes, là, Milwaukee, Cincinnati, puis les Yankees. C'est ça. Donc, il faut profiter des équipes vulnérables quand ça passe.
Ben, regardez, les Yankees ont balayé les Cards. C'est exactement ce qu'ils devaient faire. Ils l'ont fait. Alors, il faut que les Jays, s'ils veulent suivre, poursuivre, c'est quand même 5 matchs d'avance. C'est pas rien, mais ça reste qu'il faut que tu gagnes ces matchs-là. Il faut que tu gagnes des séries, Alain. C'est sûr que des balayages, là, c'est super, mais gagne tes séries d'ici la fin de l'année, tu vas finir au premier rang de la division.
Absolument. C'est le temps de la question de la semaine, présentée par Silmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voiture et de camions classiques et antiques. Je vous invite à consulter le www.silmar.ca. Il reste 6 semaines à la saison régulière. Les probabilités sont très élevées que les Blue Jays se rendent en série, même qu'ils terminent premier. On vous demande à vous, avec ces 6 semaines à venir, les Blue Jays vont-ils résister aux Red Sox et aux Yankees? Envoyez-nous vos commentaires à propos de cette question sur notre page Facebook. C'est facebook.com/complet balado. Vous allez aussi directement sur notre site internet www.complet.com.
Amateurs de baseball, viens vivre l'expérience des Capitales au Stade Canac. Du baseball professionnel, une ambiance électrique, le tout dans un stade de baseball mythique au cœur de Québec. Billets sur capitaldequebec.com.
Alain, je prends quelques instants pour souligner nos partenaires de notre balado compte complet. Évidemment, bon, plan de match, boutique de baseball, et autant évidemment à Boucherville qu'au Saguenay, c'est à Jonquière. Je sais que la saison de baseball, bon, achève pour certains, mais c'est justement le temps peut-être de s'équiper rapidement pour la saison prochaine. À Boucherville, cours privé, cache de frappeur, et je vous invite à visiter leur boutique en ligne. Alors, c'est boutiqueplandematch.com. Alors, vous pouvez voir tout ça, l'inventaire de plan de match. Je vous souligne également notre partenaire, les Capitales de Québec, qui viennent de balayer leur adversaire au cours de la dernière fin de semaine. Ça continue les succès des Capitales de Québec. Pour plus d'informations sur notre balado, visitez notre site internet www.comptecomplet.com.
Bon, parlant de notre site internet, Marc, et notre page Facebook, là, on s'adresse à ceux et celles qui nous écoutent actuellement. On fait appel à vous. Pourquoi? parce qu'on est en train de préparer un balado qui sera diffusé dans le cadre de nos balados extra. C'est qu'on vous demande, notre balado, ce sera sur la situation du baseball là, présentement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le baseball? Il y a des décisions qui ont été prises au cours des dernières années. Ça peut être les buts qui sont plus grands, le cadran, l'élimination des défenses adaptées. Bon, il y a la limite du nombre de fois qu'on peut lancer au premier but ou au deuxième lorsqu'il y a des coureurs, etc., etc. On ne vous demande pas de vous proposer des changements, mais que vous pouvez le faire aussi, mais c'est surtout qu'est-ce que vous aimez quand vous allez voir une partie de baseball, que ce soit sur place ou encore quand vous nous regardez à RDS. Donc, qu'est-ce qui vous plaît? Ça peut être un paquet de choses. Moi, j'aime ça quand les gars frappent loin. Ça peut être voir des gars courir. Ça peut être la stratégie lanceur-frappeur. Il y a plein de façons de regarder un match de baseball. Et nous, ce qu'on vous demande, c'est qu'est-ce qui vous allume quand vous regardez un match? Donc, la meilleure façon de le faire, allez sur notre page Facebook. C'est Facebook, évidemment, vous allez sur Facebook pour y aller. Donc, c'est Facebook, / compte complet balado. Et au cours de la semaine prochaine, probablement dans une dizaine de jours, nous ferons un balado là-dessus. On va tenir compte, évidemment, des commentaires, des tendances. Il y aura sûrement des tendances parmi les gens qui nous regardent. Donc, on fait appel à vous et ne vous gênez pas pour vous exprimer. C'est une belle façon là de voir un petit peu, de prendre le pouls des amateurs de baseball et savoir exactement ce qui vous allume quand vous regardez un match. Donc, ça va être très intéressant comme balado, j'ai l'impression. Marc, pas mal de choses à échanger. On a déjà commencé à préparer le terrain, là. Je pense que, effectivement, on pourrait faire un petit mélange dans certains aspects du baseball, même si, on le mentionne souvent, les athlètes d'aujourd'hui sont meilleurs qu'ils n'ont jamais été. C'est un spectacle encore très, très bon, le baseball, même s'il a évolué et même s'il a changé. Donc, Marc, on va parler de blessures d'abord, parce que il y a deux blessures particulièrement là, qui vont faire mal. Celle de Zach Wheeler avec les Phillies de Philadelphie. C'est un des meilleurs lanceurs dans la Ligue nationale. On ne se trompe pas là-dessus. C'est un des mieux payés et il se comporte comme tel. On ne sait pas combien de temps. On parle d'un caillot sanguin à l'épaule droite. Moi, je me rappelle de David Cone qui avait eu une situation semblable. Il avait raté plusieurs semaines. On parle d'il y a une vingtaine d'années. Je ne suis pas médecin, donc je ne sais pas combien de temps. Même les Phillies n'ont rien dit à cet effet-là. Tout ce que les Phillies ont dit, c'est qu'on est bien content d'avoir pu percevoir cette situation avant que ça empire. Il y a toujours un danger relié à ça. La seule bonne nouvelle que je vois là-dedans, Marc, c'est pas que c'est une bonne nouvelle, mais c'est que Tyrone Walker a commencé à bien lancer. Donc, on va se rabattre sur Sanchez et Suarez sur le court terme, comme nos lanceurs 1 et 2, ce qui n'est pas mauvais du tout, et sur un retour peut-être à la normale d'Aaron Nola.
Oui, il n'a pas été convaincant à son premier départ, mais on va lui donner le temps, évidemment, de se refaire une confiance et aller chercher son rythme. Ouais. C'est sûr que ce n'est pas une bonne nouvelle à tout point de vue parce que, bon, c'est pas une blessure, là, c'est une situation là qui peut affecter aussi, Alain, un vestiaire. Tu perds ton meilleur joueur. Lorsqu'on tombe dans les problèmes de santé, là, je ne parle pas de blessures de sport, mais des problèmes de santé. C'est sûr que ça peut affecter un peu, certains joueurs, on est un peu plus inquiets. Je cherche pas des excuses, là, mais c'est juste que parfois, ça peut affecter un petit peu plus une équipe. Et c'est clair que là, il faut prendre les bouchées doubles chez certains. Il faut continuer, tu as parlé de Sanchez, il faut continuer à lancer comme on a fait depuis un certain temps. Mais aussi, un gars comme Nola, de prendre sa place rapidement. Et la profondeur qu'on avait avec un Walker, avait peut-être un peu oublié, là, mais c'est là que la fameuse profondeur prend tout son sens lorsqu'on parle d'une équipe comme ça avec des bras de plus, des bras d'expérience de plus. Les Phillies se sont quand même dotés d'une avance intéressante, je dirais pas confortable, mais certes intéressante dans la division Est. C'est important là, de garder le cap et de poursuivre parce que lorsque tu n'avances comme ça à 6 semaines, Alain, autant les Blue Jays que les Phillies, par exemple, c'est que là, tu l'as entre tes mains, ta destinée. Ouais. Tu n'as pas besoin de toujours regarder le classement ou regarder le pointage à l'étranger pour voir qu'est-ce qui se passe avec les Mets ou qu'est-ce qui se passe avec l'autre équipe. Alors, mais c'est une équipe de vétérans, celle des Phillies et Philadelphie. Moi, j'ai l'impression que ça peut être très rassembleur, ce genre ce genre de situation-là lorsqu'on perd un Zach Wheeler. Et tu sais, de permettre à tout le monde là de prendre le taureau par les cornes puis d'amener l'équipe en série. Ouais. Parce qu'une fois en série, on le sait, Alain, là, tout peut arriver.
Oui, exactement. L'autre blessure, Max, c'est Max Muncy. Regarde, en fin de semaine, les Dangereuses ont balayé les Padres. C'est pas compliqué, puis c'est pas un hasard, Marc. On a vu au Monticule un Blake Snell, un Tyler Glasnow. Là, ces gars-là commencent à revenir. Et c'est pour ça que les Dodgers les ont embauchés. Faire les séries, puis rendre en série, ces gars-là vont être en santé, ceux autres vont nous amener jusqu'au bout. C'est un peu ce qu'on prévoyait. Mais là, Max Muncy, c'est parce que c'est le quatrième joueur d'avant-champ qui est sur la liste des joueurs blessés. Dans le dernier match, c'est Buddy Kennedy qui était au troisième but. Buddy Kennedy, qui la semaine passée, était avec les Blue Jays de Toronto. Puis il n'y avait plus de place dans le 40 joueurs, évidemment. C'est pour ça qu'on l'a laissé aller. Les Dangereuses trouvent le moyen de gagner quand même. Marc carbure encore avec les 3-4 premiers frappeurs. mais je regardais à l'avant-champ. Là, il va falloir faire confiance à des jeunes. Le jeune Freeland qu'on a rappelé, Max Freeland. Il va falloir qu'il y ait plus de responsabilité en attendant le retour d'autres joueurs. Miguel Rojas va jouer plus souvent. Mais c'est parce que Muncy allait bien, Marc, et apportait un bel équilibre dans ce milieu bas de la formation qui a, disons-le, pas beaucoup produit cette année.
Écoute, Alain, oui, on met l'emphase sur les Dodgers, absolument, mais quelle série décevante pour les Padres.
Oh ouais.
T'avais l'occasion en or de passer le message, là, que là petite, les Padres avaient leur gros lanceur aussi, Alain, là.
Ben oui.
Puis les Dodgers ont joué du meilleur baseball. Alors, moi, je trouve, en tout cas, pour un partisan des Padres, là, extrêmement décevant, là, j'imagine, de voir cette équipe-là jouer de la sorte dans une série très importante. On sait que c'est très serré entre les deux équipes. T'as encore les Dodgers qui battent donc les Padres. Écoute, Muncy, mine de rien, il était en train de se... C'est une deuxième blessure là, dans le cas de Muncy, mais...
Oui.
Il est en train de nous donner toute une saison de baseball. Là. Oh, je sais évidemment que bon, Otani, puis Freeman, Freeman et Mookie Betts et compagnie, là, et il y a des Will Smith connaît une saison exceptionnelle, mais ça passe sous le radar ce que faisait Max Muncy. Mais on balaye la série contre les Padres. Alors, est-ce que ouais. Là, justement, rendu à 6 semaines, Alain, les Dodgers, qui, rappelle-toi, bon, durant l'hiver et en début de saison, on disait, est-ce qu'ils vont en gagner 110, 115? La réponse est non. Mais est-ce que, là, les Dodgers sont en train de jouer là, dans le dernier droit comme l'équipe à quoi on s'attendait? Alors, ouais. Tu as parlé des retours de blessés. C'est une équipe redoutable, mais moi, là, ça m'a impressionné la façon dont on a battu les Padres au cours du week-end.
Oui. Marc, après Mike Pivetta, tu te demandes qui va suivre. Tu sais, les séries commencent demain matin. Là, Pivetta, c'est le meilleur lanceur des Padres par une bonne marche cette année. Qui va suivre? Cease a été très irrégulier. Michael King revient. Ce serait lui mon choix dans la mesure où il est capable d'avoir le même rendement et il est aussi en forme qu'il l'était en première moitié de saison.
Ben, ça fait beaucoup de si, là.
C'est exact.
Alors, tu sais, Nick Pivetta, ça ne devait pas être ton leader. Ça devait être un gars qui venait appuyer. Là, il va très, très bien. Yu Darvish qui revient au jeu. Bon, on va lui aussi lui donner le temps de... peut-être d'une mise en forme, là, certes, mais...
Ouais.
Ça a été des matchs serrés, tu vas me dire, mais ça reste que l'avantage est allé aux Dodgers. Puis, en tout cas, je trouve ça fatigant. En tout cas, je connais quelques partisans des Padres qui n'étaient pas très, très heureux au cours du week-end.
On peut les comprendre. Marc, rapidement, c'est dans les dernières heures, là, les Red Sox de Boston, on disait qu'ils cherchaient un premier but, mais ils l'ont peut-être trouvé. Nathaniel Lowe, qui a été libéré par les Nationals de Washington. Marc, au cours des dernières semaines, Lowe ne frappait pas du tout. Il y avait deux joueurs qui occupaient à peu près la même position au sein de l'équipe, là, lui puis Josh Bell. Donc, on l'a laissé partir. Les Red Sox le récupèrent. Je souhaite seulement que Abraham Toro n'écope pas. Mais Marc, en vue de la fin de saison, ce qui m'inquiète un petit peu, là, c'est compte tenu de la façon dont les équipes bâtissent leur formation. Un David Hamilton, on a souvent un lapin au sein de l'équipe. Là, tu ajoutes Nathaniel Lowe. Moi, j'ai peur un petit peu qu'il écope et qu'il soit le joueur de trop là, éventuellement.
En tout cas, pour être certain, là, c'est pas Nathaniel Lowe qui va être le lapin, là.
On pourra en parler tantôt, ça.
Écoute, je suis d'accord. J'ai eu une pensée aussi pour Abraham Toro. Ouais. T'sais, Abraham, bon, frappe moins, on va se le dire, après un excellent début de saison, mais est quand même très, très, très polyvalent dans la formation. Est-ce que là, Lowe qui est frappeur gaucher, Alain, est-ce qu'on va faire une rotation avec Gonzalez, qui lui est frappeur droitier? Comment on va utiliser ça? On va le savoir probablement ce lundi ou en tout cas au cours du début de la semaine. Qu'est-ce qui va se passer? Qui va écoper chez les Red Sox de Boston? Mais en termes d'équipe, c'est quand même... Bon, Lowe est capable de produire, Alain. C'était pas une grande saison qu'il avait, mais il était capable d'aller chercher le coup de circuit. Puis c'est un producteur de points. C'est un gars qui a toujours quand même produit... Un peu, est-ce que c'est ce que les Red Sox voulaient davantage dans leur poste de joueur de premier but, le combiné? Mm-hmm. C'est pas une embauche qui est folle. Ça, c'est certes du côté des Red Sox de Boston. Maintenant, qui va écoper? Là, c'est un peu ça qui est la grande question, finalement.
Oui, écoute, Lowe, à ses 27 derniers matchs, Marc, frappait pour 143. Écoute, petit échantillon, là.
Non. Puis garde, un changement d'air peut faire du bien, mais t'as un gars, Alain, qui dès le premier match de la saison, lorsque j'ai vu les Nationals là, au mois d'avril, là, j'ai fait comme wow! Et c'est pas lui qui est arrivé le plus en forme au camp d'entraînement, on va dire ça demain.
On va continuer là-dessus, Marc, parce qu'on va parler des Rangers du Texas. Des Rangers qui glissent. Leur probabilité de faire les séries, ça diminue de semaine en semaine. Marc, c'est une équipe qui a gagné la Série mondiale il y a 2 ans. On a entendu les propos de Kevin Pillar. C'est pas qu'il y a de la dissension dans l'équipe, mais on sent pas un esprit d'équipe. C'est un peu ce qu'il disait. Chacun fait les choses de son côté. Baseball, c'est un sport le plus individuel des sports d'équipe. On pourrait, dire, c'est correct, mais rien de grave. Mais là, Marc, tu regardes un peu cette équipe-là. Rappelle-toi mon évaluation de début de saison. Marc, moi, j'avais pas confiance. Je trouvais que le cœur de l'équipe en attaque était vieillissant. Puis je parlais des trois. Là. Je parlais de Semien, de Seager puis de Garcia. Les trois, ils sont pas dans le cœur de leur meilleur. C'est pas une équipe très athlétique. Et dans l'entre-saison, tu t'en vas embaucher Jock Peterson puis Jake Berger. Puis t'ajoutes Rory Telles dans les dernières semaines. Tu mets ça sur la balance, Marc. C'est correct. Là. C'est pas la plus athlétique des équipes, on va se le dire. Là. Même si, en défense, les statistiques semblent bonnes, Marc, et tout ça, mais on a l'impression que cette équipe-là est aussi amorphe que la condition physique de certains joueurs.
Écoute, premièrement, ça vaut ce que ça vaut. La probabilité de voir les Rangers faire les séries est à 11% actuellement. Ça vaut ce que ça vaut, là, mais il va falloir un revirement de situation assez drastique et je ne le vois pas, ce revirement de situation-là. Tu fais bien de mentionner qu'en début de saison, lorsqu'on a fait l'évaluation des équipes, on s'est dit ça va frapper, mais il y a toujours le mais est-ce que tout le monde va être en mesure de donner le rendement compte tenu de l'âge? Et c'est un peu ce qui est arrivé, Alain. Les jeunes, tu vois qu'il y a des jeunes dans cette équipe-là, ça pousse, mais on est bâti autour de vétérans.
Ouais.
Le baseball, tu en as parlé tantôt, Alain, a changé. A changé pour le mieux à bien des égards. Mm-hmm. Et c'est-à-dire que les jeunes prennent plus de place. Il y a plus de joueurs athlétiques. Il y a plus de joueurs qui couvrent du terrain. Il y a plus de joueurs qui vont chercher des coups sûrs à l'avant-champ en raison de leur vitesse. Il y en a de plus de ces gars-là. Mais ils sont pas avec les Rangers. Et moi, en tout cas, je comprends que la feuille de route est importante, mais Alain, on frappe un mur à un moment donné lorsqu'on atteint un certain âge, combiné, on va se dire, à une forme physique un peu plus douteuse. Mm-hmm. Et tu sais, je regarde un Peterson, Alain, Fred Jock Peterson, qui a connu une carrière exceptionnelle. Rappelle-toi, là, chaque équipe qu'il allait, il se retrouvait en série mondiale ou en série. Où il est, bon. Mais à un moment donné, Alain, il n'y a plus rien qui passe. Les mains ne passent plus. Là. C'est pas parce qu'il est rendu à 39 ans, là, mais les mains passent moins. Les blessures sont un peu plus tannantes, affectent un petit peu plus le joueur. Fait que c'est à considérer, Alain. Et tu regardes, il y a des vétérans qui continuent à produire, mais qui prennent soin d'eux. On va dire ça de même. Alors, je pense que là, Alain, plus que jamais, il faut que les gars qui approchent la trentaine, qui dépassent la trentaine, là, ben, qu'on en donne un petit peu plus pour une condition physique optimale, pour être en mesure de suivre cette tendance de voir le baseball majeur rajeunir, d'être encore plus explosif, puis d'être encore plus vite sur le terrain. Alors, je pense que les Rangers, ça expose un peu davantage ce qui se passe avec cette équipe-là, contenu des joueurs dont tu as fait mention.
On n'est pas assez athlétique. Je pense que ça revient à ça. Là, et il y a des lanceurs. Regarde DeGrom. DeGrom prend soin de lui. Eovaldi prend soin de lui. C'est pas pour rien que c'est probablement deux des meilleurs joueurs, toutes positions confondues au sein de l'équipe. Mais c'est ça. L'âge a fini par rattraper, je pense, sur le plan athlétique, certains joueurs, dont certains qui n'ont peut-être pas pris soin d'eux au niveau où ils auraient dû sur le plan professionnel. La carte de baseball, maintenant, de la semaine, une présentation de cartes-d'union-dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives. Plus de 60 000 articles disponibles sur eBay et une cote parfaite de satisfaction à 100 %. Marc, quelqu'un que tu as côtoyé, Eddie Murray, c'est la carte 1983. Ça, c'est l'année où il a remporté sa seule série mondiale. C'est la carte 141, dis-je, de la série OPG. Il est un membre du Temple de la Renommée. Il a frappé plus de 500 circuits, frappeur ambidextre. Rarement blessé, ça faut quand même le dire. Fait intéressant sur cette version qui est canadienne, c'est que la position du joueur est affichée dans les deux langues, au recto. C'était plutôt rare à ce moment-là. Puis, Marc, c'est un ensemble qui est distribué pour une série de 396 cartes. Il a passé la majeure partie de sa carrière avec les Orioles de Baltimore. C'était le joueur parfait pour Earl Weaver, Marc. Le circuit de 3 points et une présence sur les buts très élevée. Petite anecdote, Eddie Murray, Marc, en 1990, a eu la moyenne au bâton la plus élevée de tout le baseball majeur, sans remporter le titre de champion frappeur. Tu te rappelles de ça, Marc?
Oh boy!
Willie McGee avait remporté le titre de champion frappeur. C'est que McGee a été échangé au mois d'août des Giants de San Francisco aux A's d'Oakland. Donc, il a fini la saison avec les A's d'Oakland. Si tu prends sa moyenne combinée, c'est en bas du 330 d'Eddie Murray. Mais dans la Ligue nationale, c'est Willie McGee qui a eu la meilleure moyenne. Donc, Eddie Murray, même s'il a eu la meilleure moyenne au bâton de toute la saison dans le baseball majeur, il n'a jamais remporté le titre de champion frappeur. Marc, tu l'as côtoyé, Eddie Murray, parce qu'il était avec la même organisation, avec les Dodgers à Los Angeles. Disons-le, il n'était pas très sympathique avec les Scribes. Je peux juste te dire que son frère, Rich Murray, qui a joué brièvement dans l'organisation des Expos, n'était pas mieux. Mais par contre, les contacts que tu as eus avec lui, c'est pas la même impression qu'il t'a donné.
Non, en fait, c'est pas la même chose. Tu sais, il y a des joueurs qui, devant les médias, c'est une personne, puis dans un vestiaire, c'est une autre personne. Je dis pas que c'est pas le gars le plus rigolo dans le vestiaire, mais c'est un gars qui va jaser, puis écoute, moi, j'arrive, là, j'suis un jeune recrue là, qui arrive, là, puis... Ben écoute, il me parlait comme si, tu sais, on est dans la même équipe, là. Fait qu'il me parlait comme un coéquipier. Moi, j'ai trouvé ça... Moi, j'ai eu une très, très bonne impression. Enfin, il m'impressionnait, là. Moi, j'arrive, j'ai 19-20 ans, puis Eddie Murray a déjà une carrière qui allait l'amener à Cooperstown, là. Tu comprends que c'était impressionnant. Écoute, je me souviens... deux choses que je me souviens très, très bien, Alain. Premièrement, je me pinçais souvent parce que lorsque j'allais pour les matchs préparatoires des Dodgers dans la Ligue des Pamplemousses, puis à un moment donné, je suis assis, puis j'ai Eddie Murray d'un côté, puis Willie Randolph de l'autre, puis les deux se parlent. Mais moi, je suis entre les deux, là, puis j'essaie d'écouter ça, de puiser toutes les discussions parce que, tu sais, je réalisais pas encore que je me demandais ce que je faisais là, finalement. Mais ce qui était encore plus impressionnant, Alain, c'est la dimension de sa tête. À un moment donné, il y a une photo qui a été prise, là, puis je suis à côté d'Eddie Murray. Je te dis, Alain, il a deux fois ma tête. C'était assez impressionnant. Non, mais je veux dire, c'est un des meilleurs frappeurs ambidextres de tous les temps.
Ben oui.
Moi, j'ai eu une très, très, très belle expérience avec lui. Mais c'est vrai que, pour dire une chose, lorsque la porte du vestiaire s'ouvrait, puis que les journalistes avait accès au vestiaire ou après un match, là, tu écoutes, ce gars-là, il. Oups, ça. C'était un homme différent. Puis une fois que tout le monde est parti, ben là, il revenait. Je sais pas, est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans sa carrière à un moment donné ou ça. Peu importe les raisons, c'est un homme différent à ce niveau-là, mais excellent, excellent coéquipier.
Oui, juste préciser, Marc, quand il avait été échangé au cours de cette fameuse saison 90, Willie McGee, c'était des Cards de Saint-Louis. Il avait signé par la suite avec les Giants de San Francisco, lui qui était originaire de la baie de San Francisco. Donc, il s'est retrouvé avec Oakland en fin de saison, puis par la suite avec les Giants. Il a une très belle carrière, celle de Willie McGee. Là, on parle de Eddie Murray. Donc, c'est notre joueur de la semaine qui a eu une très, très longue carrière, comme je le mentionnais, principalement avec les Orioles de Baltimore.
Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball.
Nous vous invitons particulièrement les jeunes à la lecture et avec l'aide de notre ami Bob McDuff de la série, évidemment, de Baseball Bob. Il y a un quatrième livre de cette série qui est sorti un peu plus tôt cette année, Baseball Bob et le chant des tournesols. Baseball Bob qui est mêlé également avec l'organisation des Aigles de Trois-Rivières, responsable notamment du musée du baseball. C'est très bien fait. Si vous allez faire un petit tour dans ce coin-là, évidemment, allez jeter un petit coup d'œil. Donc, pour les jeunes, si vous voulez vous initier à la lecture, pourquoi pas au baseball, qui est le thème central des livres de Bob McDuff, vous pouvez aller sur le site internet www.baseballbob.ca. Notre profil de la semaine, Marc, Bryce Turang. Pourquoi lui, Marc, c'est lui qui a le WAR le plus élevé de la meilleure équipe du baseball majeur présentement. Rien de moins. C'est le deuxième plus régulier des Brewers de Milwaukee. Il s'est fait connaître pour son gant. Je ne me trompe pas, c'est le gant platine qu'il a gagné l'année passée, deuxième plus. C'est quoi le gant platine? Bien évidemment, tu gagnes le gant d'or. Mais c'est celui qui a contribué le plus, toutes positions confondues, à aider son équipe en défense. Ancien choix de première ronde des Brewers de Milwaukee, c'est un gars originaire de la Californie. Son père a joué 2 ans dans le baseball majeur dans les années 90. Et Marc, il a connu une progression, c'est sa 3e année, à chacune de ses années à l'attaque. Je te dis pas qu'il va frapper 3e et 4e à un moment donné au cours de sa carrière, mais juste le fait qu'il soit, tu sais, ton MPP au-dessus de 750 avec la qualité de son gant, ça en fait presque un indispensable chez les Brewers.
Bon. Deux choses. Un, il n'a que 25 ans, donc les meilleures années sont encore devant lui. Mais ce qui me fait le plus plaisir, presque, mesure pas 6 pieds. Mesure pas 6 pieds, pèse pas 200 livres. Autrement dit, encore un gars que c'est pas tout le monde qui regarderait. Tu comprends? Alors, je trouve que c'est un beau message, encore une fois. Je sais que le baseball a des tendances là, d'aller chercher des grands gars forts et tout ça, mais les bons athlètes, peu importe leur physique, là, il faut les regarder. Puis lui, il est en train vraiment de prendre une place importante. Il a déjà là, sa place importante auprès des Brewers, mais parmi les meilleurs joueurs du baseball. C'est pas des farces, là. La contribution est extraordinaire. Le WAR, tu l'as mentionné, est pour quelque chose. Tu sais, des bons athlètes qui ont un sens du jeu, Alain, le fameux, ce que j'appelle le baseball IQ, ce gars-là, il l'a. La prise de décision, ses déplacements, son anticipation, c'est tout ça à jouer au baseball. C'est pas juste être bon à lancer, puis frapper, puis à courir. Il y a tellement plus que ça. Puis là, je trouve que lui... Sans dire qu'il me fait penser à Bobby Witt Jr., mais tu sais, c'est dans les catégories des bons, très, très bons athlètes, mais qui combinent ça, Alain, avec une bonne tête de baseball, une bonne anticipation, comme je l'ai mentionné, puis ça donne un joueur de la sorte.
Absolument. Il contribue largement à cette saison magique des Brewers de Milwaukee. D'ailleurs, on va parler, Marc, des Brewers. On s'y était arrêté un peu la semaine dernière, mais là, on va gratter un petit peu. Parce que des données qui nous impressionnent, c'est pas une grosse masse salariale. On est dans le dernier tiers de la masse salariale. On a perdu des gros morceaux au cours des 2 dernières années. On pense à Burns notamment, qui est parti avec les Orioles et ensuite les Diamondbacks d'Arizona. On a fait des choses bien. On a même perdu quelqu'un d'important au deuxième étage. Rappelle-toi, David Stearns, qui a quitté les Brewers pour aller avec les Mets de New York. Donc, Mais il y a quelque chose qu'on a fait de bien, Marc. Il y a des acquisitions judicieuses. Je regardais un petit peu, ma statistique préférée. Puis je remarque qui a contribué largement à l'attaque depuis le début de la saison. C'est un des trois meilleurs, c'est Andrew Vaughn, Marc. Ses coups sûrs ont été dans des moments importants depuis son arrivée. Je ne sais pas s'il faut se surprendre tant que ça parce que c'est un très haut choix au repêchage. Peut-être pas la bonne organisation, les White Sox. On l'a fait graduer beaucoup trop tôt, mais il y a un paquet de petites décisions comme ça qui s'accumulent et qui ont fait en sorte que l'équipe, ben, cette année, gagne et impressionne.
Bon, tout à fait. Premièrement, Alain, si tu regardes la masse salariale du baseball majeur, t'en as glissé un mot, là. Puis là, je parle la totale. Donc, les joueurs qui sont blessés, puis l'argent que tu dois, là, comme les Bobby Bonilla de ce monde et tout ça, là, on comprendrait que ce sont les Dodgers et les Mets qui sont au premier rang.
Ouais, ouais.
Mais tu sais, juste pour vous comparer ça rapidement, là, les Dodgers et les Mets, là, on est autour de 340 millions. Là. Ça, c'est total. On se retrouve, Alain, au 23e rang avec un total de 113 millions. Donc, on voit, là, c'est trois fois moins. C'est trois fois moins. Et c'est un des plus petits marchés de tout le baseball. Mais ouais. Milwaukee, Alain, ouais. La région, là, c'est pas immense. Là.
Ouais.
Bon, ceci étant dit, on a parlé longtemps des Rays de Tampa, Alain, de survivre dans une industrie de la sorte. Là, il va falloir commencer à songer sérieusement à penser aux Brewers de Milwaukee lorsqu'on parle de la sorte. Les Brewers n'ont pas toujours eu une très bonne réputation. Alain, moi, je me rappelle lorsque j'étais joueur, la façon dont on traitait les gars dans les ligues mineures, c'était pas parfait. C'est l'organisation que j'entendais le plus souvent. Où il y avait c'était pas toujours joyeux, là, ce qui se passait, tout ça. Les entraîneurs qu'il y avait là-dedans, je veux pas blâmer des personnes, mais je veux dire, c'était vraiment la réalité. Ah, il y a quelque chose qui s'est passé dans cette organisation-là au cours, je vous dirais, des 10-12 dernières années, où là, vraiment, là, c'est comme si on a mis l'accent là-dessus. On a mis l'accent sur le développement. On a dépensé davantage au niveau justement du développement des joueurs, de s'assurer que le repêchage est mieux préparé. Puis là, ben on a l'impression qu'on voit le fruit de ça. Puis, tu sais, Alain, c'est une organisation qui a fait les séries, là. C'est pas qualité, oui. C'est pas une organisation oui. qui, ça fait 15 ans là, qu'on n'a pas touché à un match de série. Mmh. Donc, on a bâti quelque chose de bien, puis tu regardes, tu sais, Andrew Vaughn, tu sais, on a analysé là à la date limite des transactions, on a analysé les équipes qui ont bougé, puis on parlait des Mariners et pour cause, mais c'est parce que les Brewers avaient bougé bien avant. Et Vaughn a fait le travail. Puis alors, je veux aussi souligner ce que Pat Murphy fait. Bon, je sais que Council avait du succès, mais Pat Murphy avait quand même de gros souliers à chausser compte tenu de la popularité de Council à Milwaukee. Puis Murphy est arrivé comme un père de famille, Alain, qui est venu gérer ça de façon extraordinaire. Mmh. Rappelle-toi, lorsque Joe Maddon avait quitté les Rays, on disait, bon, mais est-ce que la magie va disparaître? Kevin Cash a amené ça à un autre niveau. Ça ressemble à ça. Donc, autrement dit, c'est que lorsqu'un joueur arrive avec les Brewers, connaît son rôle, connaît la façon dont on joue. Je trouve ça, les équipes qui ont du succès, Alain, là, souvent, là, et à long terme, je parle. Je parle pas un succès d'une saison là, où soudainement tout va bien. Là. Je parle du succès à long terme. Là. C'est souvent les équipes qui ont en place un système qui est très précis. Tu portes l'uniforme de cette organisation-là, c'est comme ça qu'on joue ici. Il n'y a pas de cachette. Tu ne regardes pas un peu tout le monde, tu dis bon, c'est quoi mon rôle ici? Non, non. Mm-hmm. Alors, je pense que les Brewers font les choses de la bonne façon. Puis tu retires le meilleur de tes joueurs à ce moment-là. Puis je sais que statistiquement, puis j'en parle souvent, mais statistiquement, on peut pas calculer ça, Alain, mais la synergie de groupe, le fait qu'on tire la couverte dans le même sens ou qu'on rame dans le même sens, ça fait une énorme différence. Puis là, t'as l'impression... Écoute, t'as vu, là, on a mis fin à la longue séquence de victoire, puis ça a pris un match en manche supplémentaire que les Reds sont allés chercher pour mettre fin à la belle séquence. Ils ne savent plus perdre cette équipe-là. Et ça, là, ça vaut très cher. Il y a 6 semaines des séries, là. Attention aux Brewers de Milwaukee.
Oui, écoute, au Monticule, on a. Puis les éléments qu'on a, puis je l'ai mentionné la semaine dernière, Marc, ton partant numéro un, tu l'as. C'est Freddy Peralta. Chapeau. Woodruff semble en grande forme. Mesrowski vient de revenir. Quintana et Priester marquent complète à merveille ce qui se passe. Donc, au Monticule, on est très, très bien pourvu. D'ailleurs, ça le démontre, on est davantage dominant au Monticule. À l'attaque, on est au-dessus de la moyenne, mais au Monticule aussi. Et ça, malgré des pertes, on a perdu tous les meilleurs releveurs au cours des dernières années. Ceux, les partisans des Yankees ne seront peut-être pas d'accord quand je parle de Devin Williams, mais Williams, quand il était avec Milwaukee, je veux dire, c'était un des meilleurs. On a perdu coup sur coup Josh Hader puis Devin Williams. Ça paraît même pas.
Non, exact. Mais tu sais, Alain, regarde, Woodruff, on savait qu'elle allait revenir, mais il allait revenir de quelle manière? Ouais. Tu sais, alors on parle de, tu sais, tu parles de transactions là qui, tu sais, d'aller chercher un bras. C'est comme si on est allé chercher un bras de qualité, le Woodruff qui répond bien jusqu'ici. Et Quintana avait connu une bonne saison l'année dernière. T'as l'impression que personne ne le voulait. Milwaukee qui va le ramasser. Et là, ben, c'est pour ça que je dis que ça ressemble de plus en plus aux Rays. Tu vas prendre des gars qui lancent moins bien ailleurs, puis là, soudainement, ben, ils se retrouvent à Milwaukee, puis ils vont très, très bien. Fait qu'il y a une recette qui fonctionne. C'est ce que je veux dire, là, du côté des Brewers. Puis là, il va falloir les prendre au sérieux.
Oui, puis, tu sais, il y a quelques bons bras dans cette équipe-là. Miguel, je suis pas sûr qu'on le voyait comme releveur numéro un potentiel. Fait du bon travail. Puis si Abner Oribe était avec une autre équipe, Marc, on serait peut-être plus souvent à la 8e ou la 9e manche.
Et Miguel, il y a le physique de l'emploi aussi. Là. Tu sais, je veux dire, il y a une présence quasi intimidante au Monticule. Alors, non, vraiment, on a pris de bonnes décisions. Puis les ventes de ce monde qui sont venues, ils ont embarqué dans le processus comme si rien n'était. Il se passe quelque chose de spécial. Puis il n'y a rien qui me laisse croire que ça va s'étouffer, cette affaire-là.
Oui, puis Marc, tu te rappelles, ça fait peut-être quelques semaines de ça, il y avait un match au cours desquels tous les lanceurs des Brewers utilisés dans ce match-là, il y avait eu quelques releveurs, ont lancé des rappels à au-dessus de 95. Tu sais, cette tendance-là, les Brewers l'ont appliquée là, à la lettre. La vélocité, c'est ce qui donne des problèmes aux frappeurs. Felipe Alou, c'est pour ça qu'il aimait des gars comme Miguel Batista qui faisait donner un paquet de monde, mais il lançait fort, donc il l'aimait. Tu sais, Felipe a déjà été dans le rectangle des frappeurs. Il le sait, c'est quoi qui donne des problèmes là, aux frappeurs. Là.
Non, mais c'est clair, Alain. Puis, on n'a pas le meilleur différentiel. C'était quoi le plus? 161, là, si je ne m'abuse. Je veux dire, on domine outrageusement. Donc, c'est pas la statistique, la meilleure statistique au monde, mais ça reste, Alain, que tu frappes bien puis tu n'accordes pas beaucoup de points. Ça donne la meilleure fiche du baseball.
Effectivement. On va les voir en série. Marc, on aura le plaisir de les faire puisque RDS va présenter les séries de la Ligue nationale cette année. Voilà ce qui complète ce balado. C'est la présentation des matchs de la semaine. 3 matchs encore une fois. C'est une présentation de Lester, qui est le maître du smoke pit des côtes levées depuis 1931. Donc, vous pouvez vous adresser à Lester pour vos fêtes en famille. Un bon match également. Un barbecue. Lester toujours au rendez-vous. Disponible chez votre épicier préféré. 3 matchs cette semaine et 3 bons duels. Lundi, c'est un duel en 2 équipes qui sont en tête de leur section, Houston et Détroit. 18h30, le match vous est présenté. C'est à RDS. Mercredi, les Yankees de New York contre les Rays de Tampa. L'environnement il est connu par les deux équipes. On s'entend là-dessus. C'est un match qui est présenté à 19h30. Et à 19h, dimanche, ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus les deux ensemble, Marc. Yankees-Red Sox. Il y a un demi-match qui sépare les deux équipes. Ça devrait donner du bon baseball ce dimanche. On vous y invite donc pour ces 3 matchs, comme à l'habitude, ce dimanche à compter de 19h. Je vous invite encore une fois à vous adresser directement sur notre page Facebook, dis-je, de Compte Complet. Qu'est-ce que vous aimez dans un match de baseball? Donc, et dans une dizaine de jours probablement, ou au courant de la semaine prochaine, on fera un balado sur les changements qu'on pourrait proposer pour améliorer le spectacle. 6 semaines à venir avant la fin de la saison, nous on sera de retour évidemment la semaine prochaine. Bon baseball tout le monde.
Balado Compte Complet vous a été présenté par Plan de Match à Boucherville et au Saguenay, fier partenaire de votre passion, et par les Capitales de Québec. C'est plus qu'accessible, c'est plus que du baseball.